Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. On croit que tu es présent au milieu de nous, puis on est reconnaissant pour le temps qu'on a encore ce soir, pour s'approcher dans ta présence, prendre un temps, Seigneur, pour te consacrer ce temps-là, pour venir te louer, venir t'adorer, venir te célébrer, pour venir te rendre la gloire que te revient, car tu es un Dieu saint, un Dieu différent, un Dieu qui est pas pareil à tout ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur. C'est ce qu'on va voir ce soir dans ta parole. Je te demande de parler dans nos cœurs. Je te demande de nous graver ta parole dans notre cœur. Je te demande de semer en nous la crainte de l'Éternel et un désir de vouloir marcher en communion avec ton esprit. Puis je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On est parti sur une semaine qui parle de la sanctification. Puis c'est le fun, on entend toutes sortes de prédications. Puis on n'a pas fini, la semaine n'est pas finie. Puis ce soir, le Seigneur m'a inspiré ce message-là. Des fois, c'est sûr qu'on peut peut-être répéter un petit peu certaines choses qui ont été dites. Mais je pense, comme dit l'apôtre Paul, qu'il est bon de nous répéter, de nous rappeler ces choses, car cela est salutaire pour nous. Puis si on regarde depuis le début de la création, depuis le début de l'Église, la parole de Dieu est prêchée, puis est répétée, puis est répétée, puis c'est toujours la même Bible qui est là, puis est répétée, dans toutes les formes, les manières, ça nous revient tout le temps, il y a des sujets qui nous reviennent, puis Dieu veut les graver dans notre cœur, Dieu veut qu'on les vive, qu'on les expérimente, ces versets-là. Ce soir, on continue sur le thème de la sanctification, puis on va voir un aspect à propos de Dieu, quand on parle sanctification, là, mais avant d'arriver au mot sanctification, le mot sanctification vient du mot saint. Puis ce mot-là, originalement, là, ça s'adressait qu'à Dieu seul. Puis l'Ancien Testament, parce que c'est là qu'on voit ce mot-là qui est apparu les premières fois, quand on parle du mot saint dans l'Ancien Testament, c'était le mot kadosh. Puis ça s'adresse particulièrement à Dieu, au Dieu saint. Là, on parle d'un état qui dépasse tout ce qui est humain. Quand on parle du mot saint, ça ne s'adresse pas à des humains. Ça s'adresse à Dieu seulement. Ça s'adresse seulement qu'à Dieu parce qu'aucun humain peut vivre cet état-là d'être saint. Puis ce que ça voulait dire, dans le fond, dans la racine, là, ça voulait dire différent, séparé, pur, sacré. Oui. Ça, c'est dans les mots du français d'aujourd'hui qu'il y a le mot sacré, mais dans son origine, ça voulait dire qu'il était différent, qu'il était séparé. Quand il voyait que c'était le Dieu saint, c'est parce qu'il y avait quelque chose de frappant qui se passait quand il voyait ce Dieu-là à l'œuvre. Puis quand que ce Dieu-là se manifestait, ça l'inspirait de la crainte. Puis ça l'inspirait, ça démontrait sa grandeur, puis ça démontrait sa pureté. Puis c'est ça qui frappait les gens quand ils voyaient Dieu, quand que Dieu leur permettait de voir une révélation de sa présence. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce que Dieu est apparu. En réalité, ce qui apparaît, c'est juste que ce que Dieu permet qu'il apparaisse, en fin de compte, avec nos yeux humains, on peut pas voir Dieu. Mais quand les gens ont vu des manifestations de Dieu, qui ont cru voir Dieu, il se passait quelque chose qui faisait que les gens déclaraient qu'il était saint, que ça voulait dire qu'il était différent, qu'il était séparé, qu'il n'avait rien de commun avec ce qui est humain, parce que rien d'humain peut être comme Dieu. Dans le Nouveau Testament, même le mot saint, dans le Nouveau Testament, c'est le mot agios. Il prend une racine qui vient du mot agos, qui signifie une chose terrible. Fait que quand on parle du Dieu saint dans le Nouveau Testament, ça sous-entend le Dieu terrible. Dans l'Ancien Testament, ça voulait le Dieu différent, qui est séparé, qui est pur. Bon. Pour continuer, vous me donnez une image.
Ça aurait dû être terrible dans l'Ancien Testament.
Ah, oh, il inspira le terrible. Il inspira la terreur aussi dans l'Ancien. On va aller justement lire un passage d'une apparition de Dieu, que Dieu s'est révélé à une personne, on va voir quel effet que ça a fait quand que Dieu s'est révélé. Ça, c'est dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe, c'est un grand prophète, puis Dieu s'est servi de lui à plusieurs reprises pour parler à des rois, pour le prophétiser aussi sur les peuples. Puis ce personnage-là, qui était prophète, a parlé aussi du Messie qui était à venir, en parlant de Jésus. Ça veut dire que ce prophète-là est inspiré par le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle des choses à propos de Dieu et à propos du plan de Dieu. Le passage qu'on voit dans Isaïe 6, les versets de 1 à 5, ça nous parle d'une révélation que le prophète Isaïe a eue. Il a vu Dieu, mais dans une façon que Dieu a voulu se décrire, bien entendu. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Là, c'est une vision du Seigneur. Ça dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Le prophète, quand il a eu cette vision-là, il était dans le temple des Juifs. Il devait être en prière, il devait être en train de louer son Dieu, il devait peut-être être en train de lire la parole de Dieu. Puis à un moment donné, il a une vision, il a vu le Seigneur sur un trône très élevé, puis là, il disait même que les pans de sa robe, le bas de la robe du Seigneur, remplissait le temple. Ça veut dire que c'était une vision quand même étonnante, puis une grande vision. C'était pas juste comme un petit songe ou un petit flash ou une petite lumière. C'est vraiment de quoi de grandiose. Ça remplissait le temple. Ça dit que dans sa vision, il a vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont se couvrait la face, 2 dont se couvraient les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient un à l'autre. Ça, c'est les séraphins. Ils disaient « Saint ». Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire, ou est remplie de sa gloire. Puis pendant que ces animaux-là, ces séraphins-là, ces créatures-là, louaient le Seigneur en tournant, en volant au-dessus du Seigneur, puis criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur, ça dit que les portes du temple étaient ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait. Les portes du temple, c'était des immenses portes où ce que les gens pouvaient rentrer par beaucoup de personnes en même temps. Puis c'est comme ici, nous autres, on a des grosses bâtisses, hein, comme chez Claude. Les portes sont larges, plusieurs portes pour rentrer. Mais dans ce temps-là, les portes étaient hautes, ils étaient comme en fer ou en... Non, plus que ça, c'était plus grandiose, puis c'était recouvert d'or, puis il y avait tout le... C'était vraiment magnifique comme porte. Mais pendant que les anges criaient la sainteté de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu », juste à la force de la voix des séraphins, les portes shakaient dans leur fondement, les portes du temple tremblaient. C'est comme si à chaque fois que tu entendais le mot « Saint », les portes branlaient, ça se répétait, puis ça se répétait. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, puis ça, c'était la voix des séraphins, c'était pas la voix du Seigneur, c'était la voix des séraphins. Puis la maison se remplit de fumée. Fait que là, la gloire de l'Éternel était présente. Les pans de la robe du Seigneur qui remplissaient le temple. Puis là, la fumée qui s'étendait, plus les bruits de la voix des anges, des séraphins qui se manifestaient, puis les portes qui shakaient dans leur fondement, qui s'ébranlaient, que toute la bâtisse s'ébranlait. C'est pas le nombre, c'est la force de la voix qui se disait un à l'autre. Alors je dis, malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. On va s'arrêter quelques secondes sur ce verset-là. Qu'est-ce que ça l'inspire dans le cœur de l'homme de voir une vision de la grandeur du Seigneur? Qu'est-ce que ça fait dans le cœur des gens quand ils contemplent le Seigneur de leur Dieu, selon ce que le Seigneur a permis qu'ils voient, puis qu'ils sont saisis aussi des tremblements, des bruits, de la fumée, puis du pan de la robe du Seigneur, puis ça remplissait le temple. Ça l'inspire la crainte. C'est ça que je vous disais tantôt. Quand tu vois ça, c'est différent. Il n'y a aucun Dieu sur la terre que tous les hommes connaissent, parce que tous les peuples sur la terre avaient leur propre Dieu. Et quand ils étaient en communion avec leur Dieu, n'a aucun qui était semblable à l'Éternel, le Dieu saint, le Dieu différent, le Dieu qui est séparé du reste du monde, le Dieu qui est pur. Quand tu as une révélation de ce Dieu-là, que ce Dieu-là se révèle à toi, tu peux pas faire autrement que de tomber sur ta face, puis de publier comment est-ce que ce Dieu-là il est saint, puis comment est-ce que toi, t'es pécheur. Quand tu rentres dans la présence du Dieu saint, tu tombes sur ta face. Dans l'Ancien Testament, plein de passages, même dans le Nouveau, les apôtres qui ont vu le Seigneur, ont vu des apparitions, puis dans l'Apocalypse, Jean, quand il a vu la vision de Jésus sur l'île de Patmos, il a tombé sur sa face. Puis Jésus l'a pris par la main, puis il a dit de se relever. L'idée, c'est que quand, mettons, ça nous arriverait, on serait inspiré de la même crainte, parce que c'est le Dieu saint. Puis il y a plusieurs reprises que Dieu a apparu dans l'Ancien Testament. Tout ça à des prophètes, il a apparu à des peuplades. Le dimanche passé, Franco nous a lu un passage qui parlait de David, dans un des psaumes, qui avait vu une révélation de Dieu qui descendait du ciel. Pendant que David était en guerre, puis toutes les armées étrangères de l'ennemi étaient devant lui, puis là, il a vu l'Éternel descendre comme dans une nuée, comme dans une... puissamment, puis la grêle et le feu a sorti de Dieu pour aller voler sur ses ennemis, puis tous ses ennemis se sont dispersés. Puis c'est là que Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance, a inspiré la crainte de son nom. Et les gens, quand ils voyaient ça, ils devaient trembler de peur, puis sauvent en courant. Puis qui peut tenir devant ce Dieu saint-là? Puis il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est le seul. Il y a un autre passage qui nous parle dans 1 Samuel 6, qu'à un moment donné, il y avait une histoire avec un combat encore avec des armées qui venaient combattre Israël. Puis là, il y en a de l'armée qui ont vu l'Arche de l'Alliance. Quand ils ont vu l'Arche de l'Alliance, l'Arche de l'Éternel, l'Arche de l'Alliance, c'était un objet où il était dans le temple des Juifs, puis c'est au-dessus de l'Arche que la présence de Dieu se manifestait. Ça dit qu'il y en a au-dessus de 50 000 personnes qui sont mortes instantanément après avoir vu cette Arche-là. Ça, là, quand que Dieu manifestait ces signes-là, comme aussi qu'on en a vu le Pharaon, quand il est sorti d'Égypte à la poursuite des Juifs, puis ont traversé la mer, Dieu manifestait sa puissance, il a fait des signes, puis ainsi de suite. Là, ils sont sortis de là, la mer s'est retirée, le peuple juif a passé. Quand les Égyptiens ont voulu passer, la mer s'est refermée sur eux. Quand Dieu veut révéler sa grandeur, c'est par des actes qu'on ne voit nullement de l'apport d'un autre Dieu. C'est le seul et l'unique, c'est le seul qui est différent, c'est le seul qui est séparé de ce monde, puis qui est pur. C'est ça qui est le sens du mot « saint ». Quand en 1 Samuel, qu'il y a 50 000 qui sont morts en voyant l'arche, les gens se sont écriés, ça dit, les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? » Le sens du mot « saint », il n'était pas juste pour dire que Dieu est différent ou séparé. Parce qu'un peu plus tard, ce mot-là était appliqué à d'autres choses. Il y a d'autres choses sur cette terre qui ont commencé à porter le mot, le nom saint. Ça s'adressait à des objets ou des personnes. Puis dans ce sens-là, le mot saint, ça l'a changé comme d'avoir le sens mis à part, consacré ou séparé. Ça, quand on parle de ça, c'est quand Dieu a dit, mettons, je vais prendre le peuple des Lévites, puis ça va être un peuple qui m'appartient, qui va servir dans le temple. Les Lévites, qui étaient une des 12 tribus d'Israël, devaient être les serviteurs. Ils ont été consacrés au service de Dieu. Fait qu'ils devenaient à être saints. Des gens consacrés. Fait qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à porter le nom ou le titre de saint. Il y a eu des saints prophètes qui ont porté le nom. Il y a eu des personnages dans l'Ancien Testament qui se sont fait appeler saints parce qu'ils étaient consacrés. Il y a eu aussi des objets qui ont été appelés saints. Les objets qui étaient dans le temple, il y avait le chandelier, à cette chandelle. puis qu'il devait être allumé 24 heures sur 24. C'est un objet du culte qui servait au culte, que les Juifs rendaient un culte à Dieu. C'est un objet saint, comme l'Arche de l'Alliance, c'est un objet saint. Les ustensiles qui servaient, t'as des ustensiles en or ou en airain, peu importe, des objets qu'on servait pour faire les sacrifices, puis présenter devant l'autel le sang qui est de l'animal pour le pardon des péchés. C'était des objets consacrés pour le service. Tant que ces objets-là t'as consacré au service, il n'y avait rien du dehors qui ne devait toucher à ces objets-là. Parce que ces objets-là appartenaient à Dieu, ils avaient été consacrés à Dieu, ces objets-là avaient été mis à part pour Dieu, puis maintenant ils étaient appelés saints, ces objets-là. Ou les personnes étaient appelées saintes. Puis ces gens-là avaient des rituels de cérémonie pour se purifier quand les Lévites s'en allaient parmi le marché pour aller acheter des fruits et légumes, puis aller acheter de quoi manger. Il y avait des cérémonies de purification qu'ils devaient faire en revenant pour se purifier parce qu'il y avait des gens du monde, du dehors, qui avaient touché à ces gens-là, puis en réalité, ils tombaient comme souillés, puis ils avaient besoin de faire des rituels de purification pour redevenir saints, consacrés, pour qu'en fin de compte, qu'ils appartiennent juste à Dieu. Comprenez-vous l'idée? Le contraire du mot « saint », comme qu'on le voit depuis le début, c'est « profane ». Puis même ce mot-là est le mot contraire de « saint », c'est « profane ». Puis les différents synonymes, ça veut dire « vulgarité »,« non-saint »,« impur »,« souillé » ou « ordinaire ». Ça va même le sens du mot « ordinaire ». Quand quelque chose est profane, c'est quelque chose qui n'est pas saint. Puis, on s'en sert aujourd'hui dans notre vocabulaire français du mot profane. Quand ça a rapport au culte, tout ce qui est sanctifié et qui sert au service religieux, c'est déclaré saint, dans la loi de l'Ancien Testament, mais aussi dans les choses comme l'Église catholique utilise ce sens-là. Puis tout ce qui est hors de l'Église, tout ce qui est en dehors, comme en dehors du parvis du temple des Juifs, était des choses profanes, des choses non saintes, des choses impures ou les choses ordinaires, des choses souillées. Je vais en revenir là-dessus. Savez-vous que, si on repense à aujourd'hui, là, pour chacun de nous, qu'il y a seulement que les saints qui vont entrer dans la vie éternelle. L'Apocalypse 21-27, ça dit « Il n'entrera rien de souillé. » Puis on a vu que c'était ce qui était profane qui était souillé. « Il rentrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ça veut dire qu'il ne rentre rien de souillé. Puis un autre passage, ça nous dit dans Apocalypse 26, ça nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Voyez-vous, déjà, Dieu a décrété qui va faire partie de la vie éternelle, puis qui y en fera pas partie. Présentement, dans l'ensemble de la planète, tous les gens sur la terre, ils sont dans une position de profane, de gens du dehors, de gens non saints, de gens non qui n'ont pas été sanctifiés, qui n'ont pas été purifiés, donc les gens sont impurs. La Bible nous dit, car tous, ça c'est dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre passage nous dit, il n'y en a point de juste, pas même un seul, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'ensemble de l'humanité fait partie de la catégorie profane. Que tu sois un juif, que tu sois un païen, ou peu importe de la race ou de la langue que tu es, en partant, à cause de la chute d'Adam et Ève, on est tous des profanes. Mais à quelque part, Dieu a fait un plan pour donner une occasion à certaines personnes d'être sanctifiées. De profane à ce qu'on était, on a une occasion ce soir, si on réalise, on a une occasion de devenir saint, dans le sens du mot consacré, mis à part, qu'on appartient à Dieu. Dans Colossiens 1, 12 à 14, ça nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est déjà quelque chose qu'on a. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Les saints, c'est ceux qui vont vivre éternellement dans la présence de Dieu. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. En partant, on était des profanes par notre naissance. En venant au monde, on était des gens impurs, souillés par nos péchés. On était privés de la gloire de Dieu, privés de ce qui appartient à Dieu, privés des promesses de Dieu, privés de tout ce que Dieu voulait donner. Et Dieu avait plein de choses, plein de bénédictions à donner à ses saints. Mais il fallait devenir saint. Puis c'est ça ce qu'on a eu, un accès. Puis il faut rendre gloire à Dieu qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Hallelujah! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il fallait qu'il nous sorte du lieu de profanation, ce qu'on habitait, ou ce qu'on pataugeait, où on était lié par les ténèbres, le monde entier est lié par les ténèbres, et sous la puissance de l'ennemi. Il fallait qu'il nous sorte de ce camp-là, puis il nous emmène dans le sien. Il fallait qu'il paye le prix pour qu'on puisse rentrer. On ne pouvait pas par nous-mêmes l'obtenir. C'est ce que je vous disais tantôt dans l'Ancien Testament, quand on parle du mot saint, quand on parle ce qui est à Dieu, c'est saint, ça veut dire que c'est un état qui dépasse tout être humain. Il n'y a aucun être humain pouvant être saint et obtenir ce que Dieu avait donné. Il fallait absolument que Dieu s'arrange de préparer un plan pour nous sortir de où ce qu'on était perdu, puis nous emmener dans son royaume, le royaume de son Fils. Puis à cause de ça, on est devenus des saints, des concitoyens des saints. On habite présentement les lieux célestes, et toutes les promesses qui sont pour les saints, qui sont éternelles, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, c'est quelque chose qui nous appartient, puis nous l'a donné, parce qu'il a payé le prix. On a eu, à cause de Jésus, verset 14, on a eu la rédemption, puis la rémission de nos péchés. On a été rachetés, puis nos péchés nous ont été remis. Dieu ne considère plus nos péchés. Il dit, quand votre liste de péchés, tu n'as plus besoin de m'appeler, c'est réglé. Amen. Gloire à Dieu! Amen. Il nous a rendus capables. Amen. On était incapables, puis là, il nous a rendus capables. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ont reçu cet appel de devenir saints. 1 Pierre 1,15, il nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ouch! 1 Pierre 1,15, ça dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est le Dieu trois fois saint, puisque ce Dieu-là qui nous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. » Là, ça ne s'adresse pas juste qu'on a reçu le titre de saint. Ça, on l'a reçu, le titre. Mais là, ce verset-là vient nous chercher dans notre conduite. On doit marcher d'une manière digne d'un saint. On doit être saint dans toute notre conduite. Maintenant, on a un nouveau père. Dieu. Avant, on avait pour père le diable. Maintenant, on a un nouveau père, Dieu. Puis ce père-là, il est saint. Puis il s'attend à ce que ces saints marchent dans la sainteté. Le dernier passage que je vais vous lire pour faire la conclusion. Là, vous vous demandez, « Ouais, mais c'est quoi que ça veut dire être saint? » Bien, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ça nous donne la conclusion. 2 Corinthiens 6. Le Seigneur est en train de nous dire dans ces passages-là, c'est quoi qu'il s'attend de chacun de ses enfants. Il nous dit, soyez saints, puis c'est quoi qu'il s'attend de chacun de ses enfants pour que ses enfants le deviennent. Il y a un mode de vie qui doit être ajouté à notre vie. On ne doit plus marcher comme qu'on marchait avant. Il y a un nouveau mode de vie, puis les grandes lignes de ce nouveau mode de vie-là sont expliquées dans ces versets-là. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 14. Ne vous mettez pas sous les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord qu'il y a entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Puis c'est là que le verset 17 qui est le plus tranchant, c'est pourquoi, ça nous s'adresse à nous, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est le Dieu Saint qui parle, puis il s'adresse à ses enfants, puis il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas à ce qui est impur. Autant que les Lévites dans l'Ancien Testament devaient pas toucher à ce qui est impur, parce qu'ils devaient se garder pur pour continuer à servir le Dieu pur, parce que ces gens-là ou ces objets-là étaient consacrés à Dieu. Il avait été mis à part au service de Dieu. Maintenant, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Autant qu'il nous a rachetés, il a payé le prix, il nous a sortis des ténèbres, il nous a emmenés dans son royaume. Là, il s'attend à ce qu'on marche d'une manière sainte, d'une manière séparée d'avec le reste du monde, d'une manière qui fuit les convoitises charnelles ou les péchés ou les débauches qu'il y a dans ce monde. Puis là, le Seigneur, il fait une conclusion avec le verset 1 de l'autre verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur, il veut avoir un peuple consacré, un peuple qui le sert, puis il dit, travaillez à vous purifier dans votre corps puis dans votre esprit. Puis il dit, de cette façon-là, je vais vous accueillir, puis vous serez pour moi des fils et des filles. Amen.